Oui, alors je suis content d'être ici parce que être entouré de tous ces livres, c'est très agréable pour moi, alors j'en ai rajouté un petit peu. Je suis content aussi parce que Riner a participé lui aussi au mouvement d'instruction populaire. Par exemple, j'ai une affiche sur un cycle de conférences, l'histoire de l'individualisme, en 1905-1906, à l'Université populaire du Faubourg Saint-Antoine. Je vous le fais passer, puis au dos, vous avez une brochure qui s'appelle Les premiers stoïciens, tirée d'une des conférences qu'il a faite à cette occasion. Je vais être un peu bavard au début pour vous présenter un peu la vie et l'œuvre de Riner. Et puis après, je vais essayer de m'effacer de plus en plus derrière les textes. Henri Nær n'est pas Anne Reiner, comme on pourrait le penser, il n'est pas norvégien, il est d'origine catalane. Donc Henri Nær est Henri Nær. C'est un pseudonyme purement visuel qu'il a utilisé pour éviter certains problèmes, puisqu'il est parti de l'éducation nationale. Il est né en 1961, il est mort en 1938. À quelques semaines près, il a vécu autant de temps au 19e qu'au 20e. C'est vraiment une vie à cheval sur les deux siècles. Le 7 décembre 1861, c'est la naissance de Jacques, Élie, Henri, Ambroise, Mathieu, Ernest, Nair, puisque les Catalans donnaient beaucoup de prénoms. Et donc il est mort le 6 janvier 1938. Dans son enfance, sa scolarité, ça s'est passé dans pas mal d'établissements religieux. Il s'est fait virer d'un ou deux. Et à l'époque, le petit Nair semble destiné au monastère ou à la prêtrise. C'est pas anodin dans la mesure où il a toujours gardé, même après quand il a perdu la foi, il a toujours gardé une tendresse pour le personnage de Jésus et un côté chrétien, si on peut dire, enfin, d'une certaine manière. Donc le 22 décembre 78, à la fin de son adolescence, sa mère meurt emportée par un train alors qu'elle se rendait à la messe. Ça marque la fin de sa foi religieuse. Ensuite, il fait des études de philosophie et il commence déjà à écrire des articles. Il va en écrire de très très nombreux tout au long de sa vie. De 1882 à 1895, il se promène beaucoup, beaucoup. Il est prof à Draguignan, Sisteron, Grez, Bourgoin, Nogent-le-Rotrou. On voit que petit à petit, il part de la Provence pour se rapprocher de Paris. Voilà, il se marie en 1895 avec Emeana Ferrari, qui lui donnera 5 enfants, dont un mort en bas âge. En 1889, c'est son premier roman édité. Il s'appelle Cher vaincu, c'est un roman psychologique, si on peut dire. C'est un homme qui a du mal à se décider entre plusieurs femmes. Il y a quelques petites choses qui annoncent ce que sera l'œuvre plus tard, mais pas encore trop. En 1892, La paix pour la vie, c'est écrit avec un collaborateur qui s'appelle Émile Saint-Lannes, c'est un essai de sociologie politique. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les auteurs se déclarent collectivistes. Et on verra que 3 ans plus tard, Nair se déclarera individualiste. En 1892, il y a la mort de sa fille aînée à l'âge de 7 ans. C'est un gros traumatisme pour lui. Ça a peut-être une influence sur le fait qu'il se soit déclaré plus tard individualiste. Un choc émotionnel comme ça, c'est possible. Donc vers 1893, il fréquente le Félibrige de Paris, ce mouvement qui cherche à remettre la langue provençale à l'ordre du jour. Et il fréquente brièvement Alphonse Daudet. Il sert de nègre à Alphonse Daudet pour traduire un roman d'un provençal d'extraction modeste qui s'appelle Bonnet, Baptiste Bonnet, qui s'appelle Vie d'enfant. C'est assez intéressant, ça se trouve toujours, ça vaut le coup de le lire. En 1895, donc ça y est, il est à Paris. Il est nommé répétiteur, donc ça veut dire qu'il est plus prof, moitié prof, moitié surveillant. Hein, il surveille les études du soir, il aide les élèves dans leur travail. C'est un travail qui est moins exposé que professeur, et ça lui convient mieux. C'est Louis le Grand. Donc en 1895, c'est l'année décisive, c'est l'année où plus tard, il dira qu'il s'est converti à l'individualisme. Et il écrit Le crime d'obéir, dont je vous citerai des extraits plus tard. Le crime d'obéir, moi je mets ça avec 2 autres romans, un qui s'appelle Le Sphinx rouge, et l'autre qui s'appelle Les Pacifiques, qui sont des romans de l'individualisme et des romans réfractaires, des romans de la désobéissance. Vous verrez quand je vous lirai des extraits. Donc ces 3 romans vont être écrits dans la décennie qui va suivre. En 1897-1898, ça paraît dans la revue, la fameuse revue La Plume, Le Massacre des Amazones. Donc le Massacre des Amazones, c'est un peu comme prostituée, c'est de la critique littéraire. Donc là, il s'en prend aux femmes écrivains, les bas bleus comme on les appelait à l'époque, avec un parti pris qui aujourd'hui serait considéré comme tout à fait sexiste. Alors cela dit, ça contient certains jugements qui restent justes, et il s'est mis à dos les sommités littéraires et surtout de la critique dans les journaux. Et donc c'est là le point de départ de cette fameuse conspiration du silence. Et c'est là où il adopte le pseudonyme Henri Nær. En 1899, il est nommé répétiteur au lycée Charlemagne, donc je crois que c'est encore plus près, hein, sur la même rive. Il y restera jusqu'à la fin de sa carrière en 1922. Et il rencontre Alice Tello, qui est une femme écrivain qui en littérature qui s'appelle Jacques Prel. Elle a écrit des romans difficiles à trouver aujourd'hui. C'est vraiment le grand amour de sa vie. En 1901, c'est l'écriture de L'homme fourmi qui a été récemment réédité, hein, à l'automne. Point de vue de la littérature générale et surtout de la littérature de science-fiction, c'est l'un des premiers romans qui aborde le thème des fourmis. Et pour Riner, ça marque le début de son œuvre. Enfin, Riner va s'éloigner du roman psychologique pour aller plus dans la fable. L'homme fourmi, c'est un genre de fable, la fable philosophique. En 1903, ces voyages psychodores, c'est des petits contes qui sont en résolument dans le registre de la fable philosophique. Ils seront suivis un peu plus tard par les paraboles cyniques. Dans les deux, il y a le même personnage qui est Psychodore, qui est un philosophe cynique, alors cynique au sens du cynisme antique, qui n'est pas du tout le cynisme au sens courant, le cynisme qui est plus ou moins précurseur de la philosophie stoïcienne. C'est un philosophe cynique, mais à la mode de Riner, hein, c'est pas forcément. En 1905, c'est le petit manuel individualiste dont Henri vous a parlé, et vous verrez que j'y fais assez souvent référence parce que tout est contenu de manière très synthétique, alors même s'il y aura des évolutions par la suite dans la pensée de Riner. À mettre avec, il y a le subjectivisme. Le petit manuel individualiste, c'est plutôt l'aspect pratique, et le subjectivisme, c'est plus l'aspect théorique. Ça paraît à quelques années d'intervalle. Donc en 1905, c'est l'apparition du Sphinx rouge, même s'il a été écrit avant. En 1906, c'est Chrétien et philosophe. C'est un livre de dialogue autour de la figure d'Épictète, du philosophe stoïcien Épictète. Ça inaugure toute une série d'ouvrages où Riner va mettre en scène des personnages historiques et souvent des philosophes, un peu comme des archétypes de certaines pensées philosophiques, parfois peut-être sans doute en les déformant un petit peu avec de sa pensée à lui. Vers 1910, Riner fréquente l'hexagramme et les loups. L'hexagramme, c'est un groupement artistique mais à tendance ésotérique. Et c'est un aspect qui n'est pas forcément très connu chez Riner. Il y a beaucoup d'hommes de lettres à l'époque et d'artistes qui fréquentaient milieu ésotérique, un Josso notamment.
Pas longtemps.
Ouais, bon, Riner, pas forcément non plus, mais. Et les loups, c'est un groupement de jeunes littérateurs fougueux et prêts à dévorer le monde. Mais toute cette génération de littérateurs naissants va finalement être complètement annihilée par la guerre 14-18 qui va arriver après. Donc il fait figure un peu de figure tutélaire dans ce groupe-là. Ce qui lui plaît assez parce qu'il y a quand même un certain orgueil chez Riner, un orgueil certain même. Fin 1910, c'est l'apparition du cinquième évangile. Alors le cinquième évangile, c'est une réécriture de la vie de Jésus, sans miracle. Enfin, disons que tous les miracles trouvent une explication rationaliste. Il reprend des épisodes des évangiles réels, canoniques, et il en rajoute quelques-uns. Bon, le but est toujours un peu de donner sa pensée à travers ça. Une grande qualité d'écriture. Ça a commencé à briser la conspiration du silence. Donc il a été réédité assez récemment chez une maison d'édition qui s'appelle Teolib, qui a réédité aussi les paraboles cyniques, le Sphinx rouge, et plus récemment, deux livres dont je vous parlerai tout à l'heure, La sagesse qui rit et Un art de vivre. 1911, dans les archives de police, on trouve un dossier Riner. Et une note de police le qualifie d'anarchiste intellectuel. Alors en fait, à cette époque-là, il n'est pas encore trop. Pendant la guerre, l'étau va un peu se resserrer. On voit qu'il a risqué un peu sa carrière. Il y a eu des courriers entre le ministère de l'Intérieur ou de la guerre, je ne sais plus bien comment c'était. Et celui de l'éducation. Enfin, ça ne s'appelait peut-être pas éducation nationale, mais. Pour essayer de voir si on ne pouvait pas l'évincer parce qu'il tenait des propos trop pacifistes. Et pendant la guerre, c'était très, très vraiment réprimé. On ne se rend pas compte à quel point, d'ailleurs. En 1212, alors il est élu le prince des conteurs. C'est un peu folklorique, mais ça va lui permettre d'acquérir un peu de notoriété. Toujours pareil, de briser un peu cette conspiration du silence, même s'il ne sera jamais un écrivain bien célèbre. L'été 1914, c'est l'apparition des Pacifiques, un roman non violent, juste à la veille de la Grande Guerre. Donc c'est vous dire tout le succès qu'il aura eu. Mais il a été écrit en 1904. Jamais réédité depuis, si chez les Allemands, récemment. Pendant la guerre, c'est difficile d'exprimer une position pacifiste, on risque quand même assez gros. Donc il fait comme il peut, il fait pareil des articles, ou à mots couverts, il dit des choses, mais souvent il y a la censure qui met des gros blancs dedans. Alors il s'amuse à faire censurer des grands écrivains en mettant des citations de Lamartine, par exemple, et Lamartine est censuré, enfin des choses comme ça. En 18, c'est aussi la mort de Jacques Fréhel, donc c'est son grand amour. En 1919, c'est la fondation de la Société des Amis d'Henri Nerz, ce qui n'est pas forcément très courant pour un écrivain de son vivant. Et en fait, au cours des années 20, c'est un peu la figure du sage. Moi, je dirais qu'à un moment, il a risqué quasiment d'être gouroufié. Il a des groupies, quasiment. Et il les mettra fin à cette, enfin, aux activités de la société vers 1926, parce qu'il trouvait qu'il y avait trop d'amis avec un E et jalouses entre elles. Mais la société est repartie après, notamment avec le gendre de Henri Nerz qui s'appelait Louis Simon, et enfin, c'est quand même grâce à lui qu'on a toute la masse de documents dont on dispose. Moi je lui reproche de s'être comporté en hagiographe, donc parfois pas assez de recul, mais il n'empêche que s'il n'avait pas été là, Riner serait peut-être complètement disparu de la circulation. En 1923, il prend sa retraite, alors sa retraite de répétiteur, mais du coup ça se traduit par une frénésie d'articles de journaux, de conférences, les articles de journaux notamment dans un journal qui s'appelle le Journal du Peuple. Toutes les semaines, il écrit un article. En 1922, l'apparition des véritables entretiens de Socrate. Alors c'est un petit peu comme le cinquième évangile, mais pas pour Jésus, pour Socrate. On imagine que les dialogues sont réécrits non plus par Platon, ou par Xénophon, puisque c'est les deux grandes sources qu'on a sur Socrate, mais par le philosophe cynique Antisthène. C'est un peu ardu, mais c'est intéressant. 1922-1924, alors là, il fait une campagne pour la libération, pas un déserteur, mais un insoumis, qui s'appelle Gaston Roland, qui a hébergé des déserteurs et qui s'est retrouvé en tôle jusqu'à cette époque-là. On peut dire que c'est grâce à Rainer que Gaston Roland a été libéré, disons qu'il aurait été libéré beaucoup plus tard. 1920-1930, en plus de cette histoire de Gaston Roland, il soutient beaucoup de prisonniers politiques, alors beaucoup d'objecteurs de conscience, et puis pas mal d'anarchistes aussi. Il va dans des procès, il écrit des articles. Il y a aussi beaucoup de conférences, notamment anticléricales. Celle-ci, par exemple, a été enregistrée. Il y a un disque où on entend la voix de Rainer. Voilà, vous avez entendu très brièvement la voix du maître. Alors, il était réputé très grand orateur. Une autre conférence des divers sortes d'individualisme que je résumerai tout à l'heure parce qu'elle est vraiment intéressante pour comprendre Rainer. Dans les années 1900-1930, je vous ai dit qu'il avait pas mal de groupies. Donc, c'est déjà un vieillard, hein, mais encore très vert. Donc, c'est l'amour plural. Alors, en fiction, il y a un roman qui s'appelle L'amour plural, avec une couverture un peu croquignolesque. C'est sur l'amour libre. Alors, c'était un peu à la mode à l'époque, surtout dans le milieu anarchiste individualiste. Il a plusieurs petites copines, pas forcément très jeunes non plus, mais... En 1928, c'est l'apparition de La Sagesse qui rit. Alors, La Sagesse qui rit, c'est l'opus magnum éthique de Rainer. La Sagesse qui rit, c'est en fait c'est une première partie. Il y en a une deuxième qui paraîtra que de manière posthume en 59, qui s'appelle Le Rire du Sage, mais les deux vont vraiment ensemble. Donc, ces deux-là ont été réédités tout récemment par Théolib, mais en deux ouvrages séparés. C'est un petit peu une version très largement augmentée, avec certaines évolutions, du petit manuel individualiste et du subjectivisme. Vers 1935, voilà Henri Rainer avec deux de ses petits-enfants. C'est un petit clin d'œil à quelqu'un qui est ici et qui se reconnaîtra. Et le 6 janvier 1938, Henri Rainer meurt d'une congestion cérébrale. Je vais passer vraiment au texte. Le thème du cycle, c'est individualisme et coopération. On va y venir, hein, mais d'abord, je vais parler de non-coopération. Alors, non-coopération au sens gandhiste du terme, vas-y. C'est-à-dire plus ou moins synonyme de désobéissance civile. Rainer va explorer cette voie dans trois romans, Le Crime d'obéir, Le Sphinx rouge et Les Pacifiques. Alors, je vais vous lire le prologue du Crime d'obéir. Il appelle ça une précaution oratoire, c'est un genre de préface. On confond parfois le héros avec l'aventurier, joueur qui risque sa vie contre une couronne, une fortune, un galon, une croix ou un mot d'éloge. Le premier caractère du héros me paraît le désintéressement. On confond encore le héros avec je ne sais quel récepteur qui emmagasine les sentiments d'une multitude, foule ou armée, et qui les exprime ensuite par des gestes larges ou énergiques. Mais un écho, même quand il multiplie le son, n'est pas une voix vivante, et un héros doit être une personne. Quand Descartes rejette tout ce qu'on lui a enseigné et tente de construire avec ses seules forces l'édifice de vérité, il est le commencement d'un héros. Devant une telle entreprise, les Alexandres, les Césars, les Condés reculeraient avec une lâcheté affolée. Par malheur, Descartes n'osera pas s'isoler pour l'action comme pour la pensée, il se soumettra aux lois et aux coutumes de son pays. Au lieu de devenir le héros parfait, héros avec un grand H, il restera cette ébauche, le héros intellectuel. Car le héros, avec un grand H, c'est l'individu, avec un grand I. Il ne se manifeste extérieurement que comme réaction contre son milieu. On comprend qu'il doit être antipathique à la foule de son temps et de son pays. Ce livre essaye de dire un héros, on y verra le monstre naissant et le monstre formé. Alors je complète ça par le début du petit manuel individualiste, où Rainer dit... Alors, le petit manuel individualiste, il fonctionne comme un catéchisme par question-réponse. Donc, il s'interroge. Suis-je individualiste ? Je suis individualiste. Qu'est-ce que j'entends par individualisme ? J'entends par individualisme la doctrine morale, qui ne s'appuyant sur aucun dogme, sur aucune tradition, sur aucune volonté extérieure, ne fait appel qu'à la conscience individuelle. Et dans la conférence dont je vous ai montré la couverture tout à l'heure, qui s'appelle « Des diverses sortes d'individualisme », il dit encore « L'individualiste est un homme qui a le sentiment de la réalité de l'individu et de l'irréalité de tout ce qui n'est pas individuel et singulier. » Alors le monstre, le héros du crime d'obéir, c'est Pierre Dapre. C'est un jeune provincial qui monte à Paris pour faire son droit. Il fréquente ce qui est la traduction dans le roman du Félibrige de Paris. C'est un peu un roman à clé aussi. Hein. Puis d'autres cercles littéraires un peu de seconde zone. Il découvre la bêtise, la veulerie de la foule. Je vous lis un extrait. « C'est si bête une foule. Réunissez 50 hommes supérieurs, vous aurez une foule idiote. » Il ajoute « Les noblesses sont des originalités. Les éléments humains de chacun de nous diffèrent. On peut se rencontrer deux ou trois assez semblables pour se comprendre un peu. Mais dès qu'on est 10 seulement, on n'a plus rien de commun que la partie inepte et bestiale. Au milieu de ces étrangers, nos paroles et nos gestes oublient prudemment la belle langue que nos interlocuteurs n'entendraient ni ne supporteraient. Essayer devant une de ces cohues, une réunion publique, un salon, un théâtre, d'exprimer quelque chose d'un peu profond, d'un peu subtil. Vous verrez comment on sourira, comment on haussera les épaules, comment on bâillera, comment on vous trouvera poseur et ennuyeux. Alors, à chaque fois que je lis ça, j'ai dans la tête, il me vient les paroles d'un autre sage individualiste plus tardif. Donc, Daspre va abandonner ses études, il va se faire cordonnier. Alors, pourquoi cordonnier? Parce qu'il a une opinion, enfin, qui est l'opinion de Riner sur le travail, qui est que tout le monde devrait avoir un travail manuel. Le travail est-il une loi sociale ou une loi naturelle? Ça, c'est un extrait du petit manuel individualiste. Le travail est une loi naturelle aggravée par la société. Comment la société aggrave-t-elle la loi naturelle du travail? De trois façons. Petit 1, elle dispense arbitrairement un certain nombre d'hommes de tout travail et rejette leur part du fardeau sur les autres hommes. Petit 2, elle emploie beaucoup d'hommes à des travaux inutiles, à des fonctions sociales. Petit 3, elle multiplie chez tous et particulièrement chez les riches les besoins imaginaires et elle impose aux pauvres l'odieux travail nécessaire à la satisfaction de ces besoins. Pourquoi trouvez-vous naturelle la loi du travail? Parce que mon corps a des besoins naturels que seuls les produits du travail satisferont. Vous ne considérez donc comme travail que le travail manuel? Sans doute. Et un peu plus loin. Vous exigeriez donc de l'artiste et du savant un travail manuel? Du savant et de l'artiste, comme de l'amoureux ou de l'amoureuse, la nature exige un travail manuel, puisqu'elle leur impose, comme aux autres hommes, des besoins matériels. Voilà, donc l'individualiste travaillera au maximum de ses mains. Riner dit « dans la mesure du possible ». Alors pourquoi dans la mesure du possible? Parce que la société a rendu difficile l'obéissance à la loi naturelle. Il n'y a pas de travail manuel rémunérateur pour tout le monde. D'ordinaire, on s'éveille à l'individualisme trop tard pour faire l'apprentissage d'un métier naturel. La société a volé à tous pour le livrer à quelques-uns. Le grand instrument du travail naturel, la terre. Alors un peu plus loin, il dit « quelles sont les fonctions dont s'abstiendra l'individualiste ?» L'individualiste s'abstiendra de toute fonction de l'ordre administratif, de l'ordre judiciaire ou de l'ordre militaire. Il ne sera pas préfet ou policier, officier, juge ou bourreau. Pourquoi? L'individualiste ne peut pas être au nombre des tyrans sociaux. Quelles fonctions pourra-t-il accepter? Les fonctions qui ne nuisent pas à autrui. En dehors des fonctions rétribuées par le gouvernement, n'y a-t-il pas des carrières nuisibles et dont l'individualiste s'abstiendra? Il y en a. Citez-en quelques-unes. Le cambriolage, la banque, l'exploitation de la courtisane, l'exploitation de l'ouvrier. Donc là, on a le côté anarchiste. Donc voilà pourquoi Pierre Daspre se fait cordonnier. Alors il se fait cordonnier, mais il est à l'âge de la conscription. Forcément, il est appelé sur la caserne. Il refuse d'y aller. Les gendarmes viennent le chercher. Et là, ça donne lieu à une scène assez saisissante que je vais vous lire. On vient de frapper à la porte. Pierre ouvre, voit deux gendarmes. L'un d'eux demande « C'est bien ici que demeure le nommé Pierre Daspre ?»« C'est moi. » Celui qui parle pour les deux déclare « Vous êtes réfractaire, nous venons vous arrêter. » Et il ordonne « Suivez-nous. » Pierre, sans répondre, leur tourne le dos. Longuement, il embrasse Camille, c'est sa compagne. Les deux hommes sourient indulgents. Puis, comme le baiser s'éternise, ils ont un geste d'impatience. Ce qui se passe après le long baiser silencieux les stupéfie. Le jeune homme, comme si personne n'était là, s'est assis, tranquille, a repris le travail auquel sans doute il était occupé avant l'incident. En bon ouvrier, appliqué à sa besogne, inattentif aux choses du dehors, il coud à petits points invisibles une pièce à un vieux soulier. Camille imite cette attitude laborieuse et indifférente. Et ses pauvres mains tremblent. Ses yeux vont de bien-aimer aux hommes qui bouchent l'ouverture, arrêtent la lumière. Certes, ils obstruent sa vie aussi. Elle a beaucoup de peine à respirer, beaucoup de peine à remuer les doigts et à faire semblant. Tandis que lui, vraiment, travaille comme tout à l'heure, comme avant l'arrivée hostile. Eh bien, il a un fameux toupet, le particulier, se dit à lui-même, un des gendarmes, celui qui n'a point parlé. L'autre s'adresse à Daspre. Dis donc, vous, nous sommes ici, nous vous attendons. Le cordonnier relève la tête, à peine. Moi, je suis là. Celui qui ne parle que pour lui seul grogne entre ses dents. Ah, tu veux faire le malin, tu nous paieras ça, mon vieux salaud. Et l'orateur de la troupe. Assez de comédie, n'est-ce pas? Au nom de la loi, suivez-nous. Pierre, sans perdre un point. Je ne connais pas de loi, je n'ai à suivre personne. Ah, on nous l'avait bien dit, c'est un anarchiste, malgré le silencieux. Et l'autre. Eh bien, on vous la fera connaître, la loi, et vous nous suivrez, de gré ou de force. Ils entrent dans l'échoppe. Ils viennent à Pierre, qui coud toujours, qui ne les regarde pas. Ils le somment de se lever, de marcher. Lui ne daigne ni répéter sa réponse, ni interrompre sa besogne. Le gendarme silencieux éclate enfin. Tu auras assez de temps de trimer avant de crever! Brutal, il lui arrache le soulier de la main, le jette dans un coin de l'atelier. Pierre lève les yeux vers lui et est très doux. Que vous ai-je fait? Ah, le bon rire amusé des gendarmes. Il redouble, car Pierre a ajouté, je ne vous connais pas. Celui qui ne parle pas officiellement remarque, très content de lui-même, fier de sa supériorité intellectuelle, il est idiot le particulier. Les deux hommes se font un signe. Ils prennent Pierre sous les bras, le soulèvent. « Marchez !» dit celui qui exprime les sentiments de l'autorité. D'Aspre s'est assis de nouveau. « J'ai connu un mulet qui était têtu, » remarque le gendarme aux observations personnelles. Mais l'autre, très grave, sans trop montrer encore son agacement. « Vous ne voulez pas marcher ?» Nulle réponse. « Conclusion, c'est bien, on vous portera. » Il dit à son camarade. « Va chercher un fiacre, je surveillerai notre homme. » Pierre se lève, reprend le soulier auquel il travaillait, se remet à sa besogne. Le gendarme qui restait hausse les épaules. La comédie n'a pas duré longtemps. Cependant, un groupe s'est formé devant les chopes. Pierre, quoique froid, est très serviable. On l'aime assez dans le quartier. Le gendarme qui sortait a été hué. Il s'est étonné. « Comment ? Vous soutenez un particulier qui ne veut pas être soldat ? Il est donc plus que vous, celui-là » L'argument a retourné les badauds. « C'est vrai tout de même, j'ai fait mon service, moi. Pourquoi qu'il ferait pas le sien, lui ? Nous sommes tous égaux devant la loi. On a forcé les riches et les calotins à porter le sac. C'est pas pour que les ouvriers fassent de la rouspétance. Tout le monde soldat, c'est la République !» Bientôt, les réflexions étaient remplacées par des injures. « Lâche ! Mauvais Français ! Prussien !» D'Aspre a un sourire pâle. Il regarde cette foule qui grossit, qui le hue, qui avance, qui va peut-être le frapper, le renverser, l'écraser. Et un peu plus loin, c'est effectivement ce qui arrive. Une voiture fermée approche, suivie de sergents de ville au pas gymnastique. La foule sent qu'elle va être contenue, que ses brutalités ne sont plus libres que peu de temps. Avec la violence des pouvoirs finissants, elle se précipite, renverse Pierre, le piétine. La scène de violence a été courte. L'arrivée des agents a mis en fuite la foule, lâche contre un seul, lâche devant plusieurs. Pierre s'est relevé sans trop de mal. Le gendarme orateur lui fait des reproches. « Vous voyez, vous révoltez contre l'autorité, vous avez besoin de sa protection. Sans elle, que deviendriez-vous » Pierre sourit. « Vous leur en voulez donc bien de vous avoir aidé ? Dans quelques jours, sans doute, votre autorité me tuera. » Le gendarme dit. « Ils agissaient illégalement, sans mandat. » « Mais d'Aspre, ils empiétaient sur votre monopole, n'est-ce pas ?» Le gendarme approuve. « C'est évident, ça les regarde pas. Et puis ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend, il y a des formes à observer. » Pierre sautait, se reprochant ses paroles inutiles. Il se referme en lui-même. De nouveau, il n'est plus là, trop haut pour apercevoir ce qui se passe autour de son corps. On veut le faire marcher jusqu'à la voiture, il reste immobile, n'entendant même pas les ordres et les menaces. On se décide à le porter, à le jeter dans le fiacre. Mais sa résistance passive irrite les gendarmes. Tout en le portant, il le bourre de coups de poing. Il remarque souriant. Ah, je crois que l'autorité me frappe illégalement sans observer les formes. Il n'entend pas les réponses qu'on lui grogne, car il se blâme. Moi non plus, je n'ignore pas assez les gens qui sont là et les gestes qu'ils font. La faute des pictettes est-elle inévitable ? Donc on voit vraiment le côté stoïcien du personnage. La référence à Épictète est constante chez Rainer. Voilà, donc il passe devant le conseil de révision, finalement il est déclaré fou, il passe un peu de temps à l'asile, il finit par en sortir. Entre-temps, sa compagne Camille s'est laissée mourir de faim. C'est tragique, hein, le crime de Béard. Il erre un peu dans la ville, enfin il est décidé lui aussi à se laisser crever. Il va sur le banc où a commencé son amour pour Camille. Il ramasse un journal. Et voilà ce qu'il dit. « Voyons les inepties qu'on lit sur ce banc où j'entendis tant de nobles paroles, les paroles de Camille. Mais il fut intéressé par le premier article. Cela s'appelait « surproduction ». Il paraît que plusieurs industries étaient malades de pléthore. Les chiffres donnés étaient écrasants. Comment, malgré le nombre des oisifs et malgré le nombre des travailleurs dévoyés vers des besognes inutiles ou nuisibles, on souffrait d'avoir trop produit ? La cordonnerie surtout était frappée. Les petits ateliers et plusieurs grandes fabriques se fermaient. Les autres luttaient péniblement. Le chroniqueur appelait de ses voeux un bottier de génie qui imposa une mode nouvelle, rendit ridicule et impossible à porter les chaussures déjà faites. Sinon, le stock existant suffira à la consommation pendant 3 ans au moins, et l'on se demande avec terreur comment les innombrables ouvriers de cette intéressante industrie traverseront ce long désert sans pain. Il en était de même des vêtements confectionnés et de la bonneterie. Pierre songea longtemps à l'organisation inepte qui transforme en objets nuisibles les biens les plus utiles et qui condamne l'ouvrier à mort parce qu'il a trop travaillé. Camille avait raison, plus qu'elle ne le croyait. Non seulement il avait commis la bassesse de faire des souliers pour des gens qui ne faisaient rien en échange, mais encore il avait eu le ridicule de faire des souliers qui augmentaient un stock inutile et dangereux. Il avait fait des souliers qui ne chausseraient personne et qui feraient mourir de faim. Il reconnaissait de plus en plus l'impossibilité d'accepter la vie dans une organisation où vos actes les plus honorables en apparence sont des avilissements et risquent d'être des meurtres. J'ai été un bourreau inconscient. Les coups de marteau que je croyais donner sur les cuirs des bêtes mortes frappaient des hommes vivants. Mon travail tuait des ouvriers, tuait des femmes de pauvres, tuait des enfants de pauvres. Et ces crimes qu'on imposa à mon ignorance, quel moyen de les réparer ? Donc chez D'Aspre et chez Rainer aussi, cette volonté constante de ne pas nuire, mais alors portée à un degré d'absolu tellement énorme qu'il est impossible d'être heureux dans ces conditions-là. Dans l'un des deux autres romans là, que j'ai mis avec, hein, Le Sphinx Rouge, Rainer trouve une solution au moins partielle à ça. Alors, Le Sphinx Rouge, c'est l'histoire d'un ancien juge, Sébastien de Ribiès, qui a eu un peu le même cheminement que Pierre D'Aspre, donc qui est devenu individualiste, qui avait un peu de bien, qui s'est retiré dans un petit domaine en Provence. Et il vit des productions de son domaine. Alors je vous lis la description de son domaine. Au confluent de la Durance et d'une petite rivière que la couleur fraîche de ses eaux fait appeler la Verte, le domaine de Ribiès forme un vaste triangle. Il est porté du troisième côté par une route que longe les ruines d'un ancien mur de clôture. La maison est presque à la rencontre des deux rivières. Du côté de la Durance s'allonge une étroite prairie où la vache, les mulets et l'âne vivent en liberté. Du côté de la Verte, formant avec la prairie un V fantaisiste dont les caprices répètent les sinuosités des deux lits, une marge de fleurs peuplée de ruches bourdonnantes d'abeilles semble un débordement multicolore de la rivière. Au sommet de l'angle, jardin et prairie montent en pente douce, mais plus loin ils se heurtent parallèlement à la rivière à des rochers nus de 2-3 mètres de haut, et c'est très large, un plateau couvert de blé. Partout dans la prairie, dans le jardin, au-dessus du mouvant décor des blés, des arbres tendent leurs offrandes. Cerises, amandes, poires, pommes. Débordés par le plateau qui continue, lisière étroite à droite et à gauche, mais derrière épanouissement large et libre, une colline se dresse. Les pentes basses sont plantées de vignes, parmi lesquelles sourient les fleurs roses de nombreux pêchers. Plus haut, dans le bruit des sources, des terrasses s'étachent en noblesse, où de tragiques ravins s'éboulent tordus comme des tortures. Et c'est, en désordre harmonieux, un petit bois de chêne, de noisetiers, de figuiers, une plantation de noyers, une oliviette, des châtaigniers. Au sommet, au centre du domaine, ruine cachée par les grands arbres et envahie par la verdure, l'ancien château des seigneurs de Ribiès. Par la grande et les petites portes toujours ouvertes, par les brèches chaque jour plus nombreuses et plus larges du vieux mur de clôture, par les deux ponceaux qui relient Ribiès à la rive droite de la Verte, entrait qui voulait. Ceux qui n'avaient pas de fruits venaient en chercher ici. Quand on rencontrait le maître, on lui demandait poliment la permission. « Prenez ce dont vous avez besoin, disait-il, c'est votre bien, mais respectez ce dont vous n'avez pas besoin, c'est le bien des autres. Et surtout ne faites pas de mal aux arbres, ils sont bons, ils souffrent. » Des enfants pauvres entraient avec de beaux yeux timides qui devenaient bien vite de beaux yeux joyeux. Les gamins riches ou hardis allaient plus volontiers marauder chez les voisins parce que c'était défendu. On disait couramment « Le domaine de Ribiès, c'est la terre du bon Dieu. Monsieur Sébastien, depuis longtemps, est un peu fou, mais il est bon comme le bon pain, et on lui prendrait des morceaux dans la bouche sans qu'il ose dire « C'est à moi ». Voilà, donc il peut subvenir à ses besoins sans cette espèce de prostitution, c'est une misance auquel Das prêtait contraint. Alors évidemment, on voit bien que généraliser l'ensemble de l'humanité, ça paraît absolument impossible. Ribiès a du bien, est propriétaire, donc il a cet avantage-là. Mais alors, parfois, Ribiès songe à quelque chose de plus grand. « Parfois, mon imagination construit un avenir de noblesse et de beauté. Je sais qu'il ne se réalisera jamais. Pourtant, il m'émeut comme un poème large et simple. Voici qu'en une griserie, il, donc Sébastien de Ribiès, dit le poème large et simple. Les hommes, depuis quelques siècles, se sont délivrés de toutes les tyrannies. Bientôt, leur liberté les a assez ennoblis pour que tous se refusent aux besognes avilissantes. Nul, par exemple, ne veut plus balayer les rues ou vider les fosses d'aisance. Et les villes sont devenues inhabitables. Des épidémies ont dispersé les entassements d'hommes. Toute la campagne s'est repeuplée de petits groupes amis, trop peu nombreux pour le mutuel empoisonnement physique et moral. Personne, depuis longtemps, n'est capable de la discipline nage qui permet les grands travaux communs. Il n'y a plus de mineurs privés du soleil, et les wagons qui transportaient jadis chez quelques riches les biens de tous pourrissent impuissants. Chacun travaille son champ et mange ses fruits. Il n'y a pas d'industrie impétissante, il n'y a plus de commerce voleur, il n'y a plus d'or qu'on puisse entasser. Les biens non utilisés se détruisent d'eux-mêmes, et chacun donne ce qu'il a de trop. » Cette espèce d'utopie rêvée par Sébastien de Ribiès, Rainer l'écrira un petit peu plus tard, en 1904, donc dans ce fameux roman des Pacifiques, paru à la veille de la Grande Guerre. Donc, les Pacifiques, ça raconte l'histoire de plusieurs naufragés qui arrivent chez les Atlantes. C'est une revisite du mythe de l'Atlantide. Et l'Atlantide est une espèce d'utopie anarchiste non violente, dans laquelle les hommes vivent en harmonie avec la nature, qui a plus de ville, effectivement. Voilà comment ils s'organisent pour le travail. Là, c'est le naufragé qui parle. « Qu'est-ce donc, Makima, cette maison singulière, si longue et si basse, si peu atlante, me semble-t-il, et pyramidale ?» Le Makima en question, qui est l'amphitryon atlante, là, répond. « C'est la fraternité de papier. Comment dis-tu ? Vous l'appelleriez, vous, je crois, la fabrique de papier. Ah, ici, une fabrique devient une fraternité. Ce mot fraternité, peut-être, vaudrait-il mieux traduire amitié, humanité, a des significations nombreuses, mais peu éloignées les unes des autres. On nomme ainsi l'ensemble des gens qui aiment la même occupation. » Et l'on dit, par exemple, « Makima, de la fraternité des horticulteurs ». Cependant, le mot désigne plutôt un groupe d'amis qui travaillent en commun, car certaines besognes aiment mieux être rythmées par un cœur de voix que par un chant solitaire. La fabrication du papier est une de ces musiques qui désirent être jouées par des mains nombreuses. On donne enfin ce même nom de « Neltial » à l'endroit d'où sortent les chansons et les produits. Alors, « Nelti », c'est le mot atlante qui veut dire à la fois « homme »,« frère »,« humain ». Ainsi chez vous, si je ne me trompe, le mot église désigne à la fois l'ensemble des croyants et le lieu où ils se réunissent pour croire. Alors dis-je, et mon ironie était encore voilée, il y a des frères papetiers. Celle avec qui je monte vers les étoiles, monter vers les étoiles c'est faire l'amour, fait partie de cette fraternité. Si elle avait pour le jardinage autant de passion que moi, elle habiterait la chère pyramide. Et ils échangent leurs papiers contre tes fruits. Comme c'est cruel, ça c'est le nom que les Atlantes donnent aux autres gens du monde. Comme ces cruels s'obstinent à ne point comprendre les choses simples. Je te l'ai déjà dit, nous n'en sommes plus depuis longtemps à la barbarie d'échanger de la justice. Quand un frère papetier, ceinturier ou physicien veut des fruits, il en prend sur les arbres sans se préoccuper de savoir quel frère jardinier les a aidés à grossir et à mûrir. De même que je laisse les fruits à la disposition de tous, ceux-ci déposent le papier dans un grand hangar que tu vois à droite. Quand je veux du papier, j'ai la peine d'en prendre. Porté dans une utopie fictionnelle, c'est ce que chez les anarchistes on appellera la prise au tas. Surtout chez la frange de l'anarchisme qu'on appelle le communisme libertaire. Alors maintenant je vais vous dire comment les Atlantes sont arrivés à cette société-là. Je vais vous lire le passage sur l'histoire de la révolution des Atlantes. Pendant 2000 ans, l'île fut divisée en deux nations, la Diaprépide républicaine et l'Empire Azaed. Malgré les apparences premières, Azaed et Diaprep souffraient des mêmes maux. Ici comme là, quelques riches possédaient tout. Ils faisaient travailler les pauvres à leur profit et ne leur laissaient qu'une faible partie des fruits du travail. Les malheureux dont ils n'avaient pas besoin formaient ce qu'on appelait dans la langue d'alors l'excès de population ou l'écume de la population. Beaucoup de ces êtres réputés inutiles et encombrants mouraient dès l'enfance. Les autres traînaient à travers les privations une vie maigre et hargneuse. Ils essayaient parfois de se révolter. Mais Diaprep et Azaed étaient de vaillants patriotes qui entretenaient de formidables armées. Ces armées servaient à écraser les émeutes. Si la misère du peuple devenait trop grondante ou risquait de prendre conscience de sa cause, une bienfaisante guerre servait d'exutoire à la fureur des malheureux, détournait les coups qui allaient se diriger vers les riches et diminuait un peu l'excès de population. Un écrivain politique de cette période, le fameux Arvakova, commençait un chapitre de son livre « Sur l'art de régner » par cette formule bizarre. La guerre est un paratonnerre dressé sur le temple qu'habitent les riches. Des révolutions pourtant réussissaient. Les résultats en étaient précaires et plus apparents que réels. Quelquefois, 20 ans d'empire interrompaient la république des Diaprep, ou 30 ans de république végétaient chez les Azaed. Les riches, quelle que fût la forme politique, restaient les maîtres. Ceux qu'on nommait les chefs du gouvernement étaient les contremaîtres des véritables patrons. Leurs premiers domestiques et leurs valets les plus faibles. Est-ce que ça a beaucoup changé aujourd'hui? Je ne sais pas. Enfin, un sauveur parut, dont on ne sait même plus le nom. Il se faisait appeler Nelti, c'est-à-dire frère. Il y allait dans les bourgs et les cités des deux peuples, répétant ses paroles et d'autres semblables. Comment la violence détruirait-elle le principe de la violence? Soyez doux et soyez indomptables. Ne tuez personne, ne blessez personne. Laissez-vous blesser, laissez-vous tuer, sans un pas en arrière, sans un cri de douleur. Ne commandez jamais et n'obéissez jamais. Ne travaillez point pour celui qui ne fait rien. Apprenez qu'il n'y a qu'un seul travail et qu'il se fait avec les mains. Quand vous avez faim, allez prendre au champ le plus proche de quoi vous rassasiez. Tous les champs sont à vous aussi bien qu'aux oiseaux du ciel. Tous les fruits vous appartiennent aussi bien qu'aux singes qui grimpent sur les arbres. Êtes-vous moins que les singes de la forêt et que les oiseaux de l'air? Non, vous êtes plus que les oiseaux et les singes. Les bêtes fuient quand un cruel qui dit « Ce champ est à moi, cet arbre est à moi » veut les tuer. Vous ne fuirez point. Vous opposerez à vos ennemis le courage humain, celui qui ne recule pas et qui ne frappe pas. Un homme frappé pour le droit, s'il ne montre ni colère ni crainte, éclaire cent hommes. Mais celui qui sera tué pour le droit, s'il n'a point résisté ou essayé de fuir, aura éclairé mille de ses frères. Bientôt, une foule nombreuse suivit le prédicateur de force et d'amour. D'abord, les riches lancèrent leurs armées contre ce peuple de fous passivement destructeurs, qui refusaient également de commander et d'obéir, d'être esclaves et d'avoir des esclaves, d'exploiter et d'être exploités. On en tua beaucoup, mais les prophéties du Nelti se réalisaient de plus en plus. Dès la première rencontre, des soldats jetèrent leurs armes, se joignirent à la foule sainte et au lieu de tuer, demandèrent à mourir. Non contents de ne point fuir, des exaltés se précipitaient devant les coups et criaient « Je veux mourir pour que mon frère comprenne et qu'après m'avoir tué il m'aime ». Frappe et que mon sang soit la lumière rouge qui éclaire tes yeux et embrase ton cœur. Sagesse ou démence, la pensée qui s'exalte en sentiments, en gestes et en cris, devient une puissante contagion. Des soldats pleuraient, des soldats fuyaient. Après deux ou trois boucheries horribles, les plus brutaux s'arrêtaient paralysés d'étonnement et d'impuissance. Nous ne pouvons tuer tous ces fous, disaient-ils. Nous ne pouvons tuer ces gens qui ne se défendent point, qui nous offrent leur poitrine, qui tombent en souriant et en nous bénissant. Pourquoi faire d'ailleurs? Ils sont trop, et la mort les multiplie encore. Après 20 ans, il n'y avait plus de soldats, il n'y avait plus d'esclaves, il n'y avait plus de salariés. Il y avait, parmi des multitudes errantes qui mangeaient les fruits de la terre, quelques riches obstinés et misérables qui seuls travaillaient, essayaient de produire les inutilités devenues nécessaires à leurs pauvres cœurs serviles, et qui voyaient avec une rage découragée des êtres doux envahir leurs jardins et leurs maisons, prendre, parmi des paroles et des rires amis, tout ce qui était utile et trop abondant. Rarement le riche essayait encore le meurtre qui ne pouvait rien changer aux choses. Souvent, elle fuyait dans un coin solitaire pour pleurer et pour ronger son cœur à l'acide des souvenirs et des regrets. Enfin, il n'y eut plus un seul riche. Presque tous s'étaient fondus dans la grande fraternité humaine. Les plus tenaces étaient morts de colère ou de mélancolie. Alors, les hommes libres se remirent au travail et au jeu sur la terre purifiée. Le grand Nelti ne vit point ses jours. Il était mort depuis longtemps. S'il avait vécu, peut-être aurait-il empêché la folie qui fit peser, moindres et mieux supportées sans doute, mais si absurdes et inutiles, des misères sur plusieurs siècles encore. Peut-être aurait-il empêché ces êtres doux et courageux, égaux et fraternels, ces hommes enfin réalisés, d'aller s'empoisonner pendant 1000 ans encore dans les fétides cités. Prenez exemple sur les oiseaux du ciel, leur aurait-il dit. Ils se gardent bien de rapprocher leur nid jusqu'à en faire des tas de fumier. Mais chacun pose sur une branche heureuse la demeure où naîtront et grandiront ses petits. pense que je m'avance pas trop en disant qu'on trouve peu de scènes équivalentes à celle-ci dans la littérature d'anticipation. C'est la non-violence, mais vraiment portée à un extrémisme qui est quasiment intolérable. Alors à la fin du roman, on a encore une scène comme ça, puisque les naufragés essayent de prendre le pouvoir sur l'île, mais évidemment ça marche pas bien. Là encore, ça donne lieu à des scènes où tous les Atlantes se précipitent vers eux pour se faire tuer, pour essayer de les convertir à l'amour. Éditant 1914, oui, juste l'été 1914, à la veille de la déclaration de guerre. Écrit en 1904. Le crime de Béer, le sphinx rouge et les pacifiques ont été écrits toutes dans la décennie 1895. Voilà, donc on a la question de la révolution. Même s'il le décrit dans son utopie, il est tout à fait sceptique quant à toute possibilité de révolution, donc ce qui distingue de beaucoup d'anarchistes. Sur la question de savoir s'il faut qualifier Riner ou non d'anarchiste, alors quelqu'un qui dit qu'il y a deux crimes, obéir et commander, très vite, on a tendance à le classer comme anarchiste. Lui, il s'en distingue éventuellement, mais ça ne gêne pas d'avoir cet adjectif-là. Bon, c'est pas très important pour lui, cette étiquette. Alors là, je vous lis un extrait d'un article qui s'appelle « Révolution sans révolutionnaire ». Oui, je connais des camarades qui attendent un peu de bien, beaucoup de bien d'une révolution même violente. Chers amis, vous repassez vos fossiles quand les semailles ne sont pas faites, et vous voulez bâtir avant que les pierres soient extraites de la carrière. Des violences sont possibles, et des meurtres, et une guerre civile, et rouge ou blanche une période de terreur, tout un décor sanglant qui, pour les sadiques du pittoresque, s'appelle en bavant la révolution, et que ces sadiques approuvent en bloc. Mais dites-moi de grâce, quel résultat sortirait de ces mouvements chaotiques? Que résulterait-il du triomphe de ce que messieurs les imbéciles, saluez ces nombres, appellent l'ordre? Que résulterait-il même du triomphe des éléments que nous appelons, non sans étourderie, révolutionnaires? Nul changement profond et heureux, j'en suis trop certain. Pas de révolution réelle, pas d'ordre nouveau. Pourquoi? Parce que la catastrophe vers quoi nous marchons sera une révolution sans révolutionnaire. Voulez-vous toute l'âpre et désolante vérité? L'histoire moderne ne nous présente que des semblants de révolution, parce qu'elle ne saurait découvrir de vrais révolutionnaires. Je connais l'objection courante, il paraît que hier et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Sans intérêt et sans enseignement, les révolutions d'hier. Elles étaient politiques, la prochaine sera sociale. Les questions étaient mal posées, aujourd'hui elles sont bien posées. Je voudrais me laisser rassurer, me laisser injecter un peu d'espérance. Je n'y parviens pas. Je ne réussirai jamais à donner à l'étiquette d'un mouvement l'importance que lui attribuent certains camarades. Essayons pourtant. Ce que vous dites sur la différence des révolutions passées et la révolution prochaine doit faire attendre des futurs mouvements catastrophiques, des résultats sociaux analogues aux résultats politiques des révolutions précédentes. Mais nous ont-elles donné la liberté politique qui était, dites-vous, leur seul objectif? J'ai peine à trouver Robespierre ou Napoléon Ier moins tyrannique que Louis XVI. Où est le résultat des Trois Glorieuses? Un roi des Français au lieu d'un roi de France. Ça fait bondir votre cœur? 48 plantatifs fleuris en empire plus rapidement que 93. Qu'est-il sorti du 4 septembre? La tyrannie sanglante de Thiers, la tyrannie tatillonne de l'ordre moral, et jusqu'à l'immonde dictature que nous subissons, combien de tyrannies? C'est écrit en 1919. D'avoir été plus ridicule qu'odieuse, quelques-unes, je le sais, deviennent presque charmantes à nos souvenirs. Charmantes comme la bonté familière d'Henri IV ou la lourde faiblesse de Louis XVI. Un badingué, un Napoléon III, 5 ou 6, je me perds moi dans ces gros numéros, serait-il pire que le gâteux dans et d'honneur chargé? Le gâteux, c'est Clémenceau. Ni pire ni meilleur, ou plutôt selon les fantaisies du hasard, un peu meilleur, un peu plus mauvais, sans que nul mathématicien puisse calculer les probabilités d'avoir un peu mieux, d'avoir un peu plus mal. Les révolutions politiques ont changé de main l'autorité publique, elles ont modifié son nom officiel. Une révolution sociale détruira la propriété de la même façon que les révolutions politiques ont détruit le pouvoir personnel. Le peuple, après cet effort, sera propriétaire exactement comme après les quatre efforts politiques, il est souverain. On parlera par discours et par affiche au glorieux peuple propriétaire. Nous jouirons d'une fiction de plus, nous rirons si on nous permet de rire d'un nouveau mensonge. C'est exactement ce qui se passait en Russie à cette époque-là. Je voudrais ajouter un petit truc, donc c'est vers 1930. C'est une réponse à une enquête sur de l'opportunité d'un mouvement de non-coopération gandhiste. Alors, est-ce que pour Riner, un tel mouvement trouve grâce à ses yeux? Nous sommes encore, je le crains, dans la longue période des défaites et des catastrophes. L'individualité du problème est reconnue par trop peu de conscience, et la nécessité d'une méthode qui lui soit propre. Les révolutionnaires opposent encore la violence à la violence, la discipline à l'autorité. Gandhi n'a-t-il pas interrompu son mouvement de non-coopération parce que ses adhérents se laissaient glisser à l'action directe qui ramène dans le cercle infernal? D'ailleurs, tant qu'on demandera son mot d'ordre à Gandhi ou à n'importe qui, on démontrera que la libération est encore impossible. Le progrès éthique est plus farouchement individuel. Il ne s'épanouira en progrès social que lorsque les consciences seront nombreuses qui, sans le soutien d'autres consciences, sauront dire non. Tant qu'on est assez peu héroïque pour avoir besoin de se grouper, nul espoir immédiat n'est raisonnable. Le groupement donne un commencement d'ivresse qui conduit vite, hélas, à l'ivresse de l'action. Dès que nous saurons éviter le crime d'obéir et la faiblesse de nous grouper, dès qu'il y aura des hommes, il y aura progrès humain. Jusque-là, il y a seulement ces progrès scientifiques et industriels qu'un stoïcien déclare indifférents. Voilà pour Gandhi, enfin pour un tel mouvement. Est-ce que les anards, enfin du moins ceux qui veulent faire la révolution, trouveraient l'assentiment de Riner ? Un extrait du Rire du Sage, écrit dans les années 1920. À qui les fréquente, la plupart des anarchistes ne paraissent pas beaucoup plus nobles. Moins de cerveau et de cœur, là aussi, que d'appétits insatisfaits. Jugeant leurs idées et non leurs sentiments, le sage remarque que le gouvernement est un élément comme un autre de la société civile, un produit comme un autre de l'appétit de richesse qui transforme les hommes en bêtes rivales. Plusieurs anarchistes, hélas, ont eux aussi voulu la fin jusqu'à vouloir les moyens, essayer de créer l'humanité par des gestes inhumains, d'établir la douceur à coup de violence. Allusion à la période des attentats dans les années 1890. Comment l'anarchisme maintiendrait-elle si la force parvenait à l'établir ? Par la force encore ? Qu'est-ce donc qui la distinguerait d'un autre État ? Conçoit-on une force organisée sans hiérarchie ? L'anarchie violente ne tarderait pas à devenir une archie. Elle ne serait qu'une transition sanglante vers quelques dictatures. Mais si elle s'établissait par la douceur et les persuasions, si tout le monde comprenait, faisons l'éducation de la foule et répondons, anarchiste ou sans épithète, la vérité. Tardifs rêveurs, ces apôtres d'une autre bonne nouvelle, projettent dans un avenir proche l'idylle qui fut projetée déjà dans combien d'avenirs devenus dépassés. On prêcha le royaume de Dieu, ils prêchent dans leur société future un royaume de Dieu, sans majuscule et au pluriel. On sait comment se déformèrent dans la pratique les beaux songes des premiers chrétiens. Ce n'était pas la peine de changer de religion. Dans le petit manuel individualiste, on avait déjà... Qu'est-ce que le sage pense de l'anarchie ? Le sage regarde l'anarchie comme une naïveté. Pourquoi ? L'anarchiste croit que le gouvernement est la limite de la liberté. Il espère, en détruisant le gouvernement, élargir la liberté. N'a-t-il pas raison ? Non. La vraie limite n'est pas le gouvernement, mais la société. Le gouvernement est un produit social comme un autre. On ne détruit pas un arbre en coupant une de ses branches. Pourquoi le sage ne travaille-t-il pas à détruire la société ? La société est inévitable comme la mort. Sur le plan matériel, notre puissance est faible contre de telles limites. Mais le sage détruit en lui le respect et la crainte de la société, comme il détruit en lui la crainte de la mort. Il est indifférent à la forme politique et sociale du milieu où il vit, comme il est indifférent au genre de mort qui l'attend. Là, on a, au moins pour le Riner du petit manuel individualiste, son affirmation d'une antinomie entre la société et l'individu. Alors, Stéphane Beau, qui est venu en janvier, c'est ça ? Vous en avez peut-être parlé, puisque c'est aussi le credo de Georges Palante. C'est l'opinion de Riner du petit manuel, mais une vingtaine d'années plus tard, c'est un petit peu différent. Dans la société, il va distinguer deux choses. Le sage aime la solitude et le silence. Il aime aussi la société et les hommes. Si rien ne s'y oppose, il fait alterner comme le sommeil et la veille, comme l'activité et le repos, la joie de se retirer en lui-même, la joie d'écouter les hommes et de leur parler. Ce besoin de compagnie et cet amour pour nos semblables paraissent des nécessités naturelles au même degré que l'égoïsme lui-même, et l'on a tort à tous les points de vue quand on oppose l'état de nature à l'état de société. Ce qu'on peut distinguer, non chronologiquement, hein, pas comme Rousseau, mais analytiquement, c'est la société naturelle et la société civile. Il m'est naturel de désirer la société des autres hommes. Ce qui est artificiel, ce qui est dépravation du besoin naturel, c'est le goût de vivre dans une société hiérarchisée, d'y occuper une place définie, de n'y être pas ce que ridiculement on méprise sous le nom de déclassé. Ce qui est en partie artificiel et complètement détestable, c'est la lâcheté d'obéir et la brutalité de commander. Pour le Riner des années 20, dans toute société, on a qui s'interpénètre toujours, c'est les deux choses, la société naturelle, la société fraternelle, de la libre association des hommes entre eux, et la société civile, la société contrainte. C'est un peu une remise au goût du jour d'une opposition fondamentale chez les philosophes antiques entre la nature et la cité. Alors, individualisme et coopération, individualisme et fraternité, individualisme et amour, sont-ils incompatibles ? J'espère, avec tout ce que je vous ai lu, que vous aurez compris que pour Riner, c'est absolument pas le cas. Au même titre que même individualisme et communisme. À nouveau une réponse à une enquête sur syndicalisme et individualisme. Si dans le présent, individualisme et communisme semblent des adversaires, c'est là une des innombrables condamnations du présent. Individualisme et communisme sont les deux pôles de la vérité humaine, nos deux nécessités les plus profondes. Tant qu'on ne sait pas les apaiser, les concilier, les unir, faire de ses ennemis apparents des collaborateurs heureux, l'homme reste chose incomplète, grinçante et impuissante. Individualisme, vérité essentielle de mon esprit, communisme, vérité essentielle de mon cœur et de mes mains. Je ne puis penser que par moi-même. Mon cœur cherche la chaleur des autres cœurs. Jalouse et solitaire dans l'œuvre d'art, mes mains, dès qu'il s'agit des besognes pour la vie matérielle, sont désireuses d'aider et de se faire aider. Évidemment, communisme est pris au sens éthique et pas au sens politique, comme à peu près tout ce dont Riner va parler. Il avait répondu aussi à une autre enquête sur individualisme et communisme. Il avait dit « Demandez-moi pendant que vous y êtes si la respiration se peut concilier avec la circulation du sang, la pensée avec le sentiment, l'activité avec le repos. » Alors individualisme et communisme, ok, c'est compatible. On continue. Individualisme et solidarité, c'est compatible aussi. L'individualisme de Riner, c'est un individualisme fraternel, qui peut être altruiste, avec son besoin d'absolu. Aimer, c'est un don de soi, c'est le don le plus absolu de soi-même. C'est aussi sans doute enfin, l'enseignement de Jésus. Mais Riner reproche à Jésus de mettre un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que si je veux me donner entièrement, si je veux donner le meilleur de moi-même, il faut que j'ai fait un travail sur moi-même pour que ce que je donne soit le meilleur possible. Si ce qu'à l'intérieur de moi j'ai est contradictoire, ça aboutira à des catastrophes. Dans le subjectivisme, un alter ego s'adresse à Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Parole du Christ. Mais comment est-ce que je m'aime? Tout est-il aimable en moi? Ne s'y introduit-il pas des pensées que je repousse? Élève-t-il pas des désirs que je comprime? Ne s'y chuchote-t-il pas des suggestions auxquelles je me hâte d'imposer silence? Et tout cela peut-être n'est point moi. Mais il faut donc que pour aimer selon ta règle, je commence par me connaître moi-même. Ton premier commandement, Jésus, a besoin d'être précédé d'un autre. Je le crains, tu débutes par la fin. Tu exiges le chef-d'œuvre avant d'enseigner les éléments de l'art. Tu veux moissonner ce que tu as négligé de semer. Aime! Puis-je efficacement m'adresser une telle recommandation? Ai-je sur mes sentiments un pouvoir aussi direct? Ô Jésus, artiste de vie peut-être trop spontanément grand pour avoir une méthode, pour connaître les difficultés des commencements et l'effort du lent progrès, pour trouver dans ton expérience quelques souvenirs utiles aux pauvres apprentis que nous sommes. Tu aimais déjà quand tu te commandais d'aimer. Tu dis à tous, faites comme moi, et tu vas semant l'amour dont tu débordes. En voici innombrables qui croient faire comme toi, et ils sèment ce dont ils débordent, de sorte que ton froment étouffe sous leur ivraie. Ô toi qui fus doux et humble de cœur, regarde ces vastes siècles. Ils sont le domaine de ceux qui se réclament de ton nom. Ils n'y poussent que haine, tyrannie, avidité, orgueil, inquisition et guerre. L'amour ne se crée pas à volonté. Ton apparent triomphe et ta lamentable défaite réelle le prouvent cruellement. Il me semble que sur ma pensée j'ai un peu plus de pouvoir. Je puis diriger mon attention, l'arrêter ici plutôt que là. Aimer, je ne saurais le tenter directement. Je puis essayer de me connaître moi-même. Et là, on en revient au grand conseil de la Grèce antique. Notice automne, connais-toi toi-même. Donc me connaître, c'est savoir ce que je suis, savoir ce que je veux, savoir ce que je peux. Alors, pour les philosophes antiques, la philosophie, c'était plus qu'une activité purement rationnelle ou de langage, c'était vraiment un choix de vie. Alors ça a été bien mis en évidence par quelqu'un qui est mort il y a pas très très longtemps, qui s'appelle Pirado, qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie antique ?». C'est très très accessible, extrêmement intéressant sur le sujet. Donc Riner vraiment se place là-dedans. Alors c'est pour ça que j'ai lu sur internet il y a quelque temps quelqu'un qui avait lu, je sais plus, Petit Manuel Individualiste, et puis qui disait « Oh, bien sûr, Henri Riner n'est pas vraiment un philosophe au sens où on l'entend. » Alors oui, peut-être, mais c'est un philosophe réellement au sens antique du terme. Il a vraiment réactualisé cette figure du sage antique. Alors certains l'ont surnommé d'ailleurs le Socrate contemporain. Il y a quand même des dissemblances avec Socrate. Pirado dit aussi que à la base de chaque école de philosophie antique, il y a un choix de vie par rapport à des tendances profondes qu'on va manifester au moment où on va faire ce choix-là. Il appelle ça des options existentielles. Riner, sans parler d'options existentielles, met très bien en évidence ça dans des diverses sortes d'individualisme. Il répond à la question « connais-toi toi-même ». Si on se pose cette question « qui suis-je ?», je peux pencher pour deux choses différentes. Je peux me dire « ce qui est le plus important pour moi, c'est le fait que je suis un être vivant ». Je peux aussi me dire « ce qui est le plus important pour moi, c'est que je suis d'abord un être humain ». Alors celui qui a répondu « je suis un être vivant » va pouvoir se poser la question « mais qu'est-ce qui est le plus profond, qu'est-ce qui est la caractéristique essentielle du vivant ?» Et là, Riner donne encore une alternative entre deux choses, deux choix. Je peux me dire « ce qui est le plus profond dans le vivant, c'est la volonté de puissance, la volonté de domination ». Alors là, on a une première sorte d'individualisme, un individualisme de la volonté de puissance. Donc Riner donne comme cas archétypal Nietzsche, et aussi un philosophe antique plus méconnu, Caliclès. Celui qui a répondu « je suis un vivant » peut aussi se dire « ce qui est le plus profond dans le vivant, c'est la volonté de plaisir. » Et donc là, on a toutes les philosophies hédonistes, les cyrénaïques antiques, Aristippe, et l'épicurisme. Quant à ceux qui ont répondu « je suis d'abord et avant tout un être humain », dans ce qu'ils vont chercher, ce qui est le plus profond chez l'être humain, ça peut être le cœur. Alors là, il va citer donc, un individualisme du cœur. Comme exemple, on a Tolstoï. Il faut bien voir que Tolstoï est un grand inspirateur de Riner, notamment pour la non-violence. Et il y a une œuvre qui est peu connue en France de Tolstoï. Il y a tout un pan d'une sorte d'anarchisme chrétien non-violent qui n'a pas été réédité, ou très peu, depuis très très longtemps. Et puis on peut se dire aussi, pour moi ce qui est le plus important dans l'être humain, c'est sa raison. Et là on va avoir plus les philosophies, les stoïciens, et pour Riner notamment, Épictète. Rinaldi, de toute façon, de n'importe quel point qu'on parte de l'individualisme, de la volonté de puissance, de celui de la volonté de plaisir, de celui du cœur ou de celui de la raison, on peut partir de ces quatre points. L'important, c'est d'arriver au sommet où on va pouvoir finalement faire la synthèse, harmoniser toutes ces tendances-là. Et Riner écrira notamment un article dans l'Encyclopédie anarchiste, alors ça a existé, c'est quatre pavés énormes, des articles sur l'individualisme, il y en a plein, une dizaine, peut-être même une quinzaine d'articles différents, et lui, son article, c'est individualisme, entre parenthèses, anarchisme harmonique. Donc il y a vraiment cette volonté d'harmonie, de concilier ces différentes tendances. Chez Riner, c'est quand même beaucoup une synthèse de l'épicurisme et du stoïcisme. Alors dans le petit manuel, il dit qu'il faut aller à Épictète en passant par Épicure. Dans tous les cas, il s'agit d'apprendre à se détacher de ce qui n'est pas nécessaire. Épicure dit qu'il y a des désirs naturels et nécessaires, ceux-là il faut les satisfaire. Des désirs naturels et non nécessaires, ceux-là on peut y accéder tant que le gain est supérieur à la perte, si on peut dire. Et puis il y a les désirs non naturels et non nécessaires, le désir des honneurs par exemple, de porter une jolie médaille, c'est nos ennemis. Et puis il y a aussi Épictète et les doctrines des choses indifférentes. Tout ce qui ne dépend pas de moi est indifférent, et ce qui dépend de moi, c'est ma pensée, ma volonté, mes désirs. Grosso modo, c'est mon être intérieur. On peut être d'accord ou pas avec ça. N'empêche que la doctrine d'Épictète permet par exemple sûrement à Pierre d'Aspre, son refus d'obéir aux gendarmes par exemple, et se réfugier en lui-même, ça ne dépend pas de moi, ça doit m'être indifférent. Rinner va harmoniser Épicurisme et la doctrine d'Épictète. Je vous invite à lire cette citation avec moi. L'épicurisme suffit de circonstances ordinaires. Au centre du jardin, j'ai dressé l'imprenable forteresse d'Épictète. Je m'y retire seulement aux heures critiques, mais je me souviens toujours qu'elle est là, et j'entretiens le chemin qui y conduit. Grâce à elle, le jardin m'est plus doux. L'ombre de la citadelle tue les germes de la crainte. Mon bonheur présent ne se corrompt de nulle appréhension. Voilà. C'est extrait de la sagesse qui rit. Ça, ça permet aussi de se détacher des choses qui ne sont pas nécessaires, et ça permet de mieux aimer. Alors, je vous lis un extrait d'un article qui suit celui que je vous ai lu tout à l'heure, qui s'appelait « Révolution sans révolutionnaire ». C'est dans quelques numéros après, dans le même journal, « Les vrais révolutionnaires ». Nous aimons les hommes. Hélas, nous aimons aussi mille prétendus biens extérieurs qui nous mettent en concurrence sournoise ou violente, qui nous engagent dans des luttes multiformes et soulèvent en nous de la haine. Des frères, les autres hommes ? Oui, s'ils cessaient d'être des concurrents. Mais il dépend de nous que cette concurrence cesse. Il faut renoncer à l'amour ou à ce qui détruit l'amour. Avez-vous fait votre choix ? Oui. Et votre choix n'est pas le choix banal. Alors vous êtes un révolutionnaire. Mais si vous avez choisi les biens extérieurs, et si vous désirez le grand changement pour en avoir une meilleure part, vous ressemblez à tous ceux qui empêchent le vrai changement. Vous pourrez contribuer à amener des cataclysmes et des guerres civiles, vous ne serez pas un ouvrier de la vraie révolution. Celui-là seul qui préfère son amour pour les hommes à son attachement pour les choses, a fait en lui la vraie révolution. Sommes-nous assez nombreux ? Nous pouvons vivre ensemble harmonieusement. Un milieu libre est possible qui ne soit pas un nid de querelle. Notre amour est-il contagieux jusqu'à faire de tous les hommes des sages ? Alors la société elle-même devient sage en même temps que ses membres, et sans qu'on puisse dire où, quand, comment elle s'est faite, la révolution est achevée dès qu'il y a assez de révolutionnaires. Puis-je espérer ? Voulez-vous me permettre de ne pas me poser la question ? Espérer, n'est-ce pas demander aux autres de m'aimer en échange de mon amour ? Alors mon amour n'est pas encore désintéressé, je ne suis pas encore le vrai révolutionnaire. Le vrai révolutionnaire est détaché de tout l'extérieur, présent ou futur, de la naïveté de la conquête et de la naïveté de l'espoir. Il est l'homme réalisé. Il ne sait pas si un avenir humain se produira à jamais, humain est souligné. Il est prêt, voilà tout. Et si l'avenir humain se réalise un jour, il aura été l'homme de l'avenir. Riner, se défendant de toute action sociale, a quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, au moins contribué à soutenir des victimes de ce qu'il va appeler la société civile, hein, par opposition à la société naturelle. Dans le petit manuel individualiste, juste après le passage là sur l'opposition entre la société et l'individu, il dit « Le sage n'agira-t-il donc jamais sur la société ? Le sage sait qu'on ne détruit ni l'injustice sociale ni l'eau de la mer, mais il s'efforce de sauver un opprimé d'une injustice particulière, comme il se jette à l'eau pour sauver un noyé. » Et je vais vous lire un dernier article qui s'appelle « Face à la justice ». La justice commet deux sortes de crimes. Elle est infâme, certes, quand elle oublie les misérables garanties que la loi donne aux justiciables. Ah, l'infamie de cette gardienne de la loi quand elle ose poursuivre et condamner contrairement à la loi. Mais ne lui rêve-t-il pas d'être scélérate par fidélité à la loi ? Si nous devions applaudir le magistrat dès qu'il obéit au code, il nous faudrait approuver le long des siècles combien d'hommes que les juges mêmes d'aujourd'hui méprisent, au moins dans leurs paroles. Pour des tentatives résurrectionnelles, j'ai étudié de près les procès de Socrate et de Jésus. Légalement, c'est légalement, entendez-vous légaliste ? Que Jésus fut crucifié, que Socrate fut empoisonné. Et les milliers d'hérétiques brûlés en grande cérémonie ? Est-ce que les lois de leur temps et de leur pays ne les considéraient pas comme coupables? À condamner le criminel légal, combien de juges sont devenus des criminels naturels? Mais pourquoi notre regard se trouble-t-il devant l'actualité? La vie vivante, celle que nous vivons et qu'on vit autour de nous, que notre pensée, notre geste contribuent à former, nous intéresserait-elle moins que ce passé sur lequel et pour lequel nous ne pouvons rien? Vous croyez-vous vraiment, hommes si fiers d'être vos propres contemporains, que nulle loi d'aujourd'hui ne condamne la vertu et ne persécute l'innocence? Croyez-vous que notre code ne contienne aucune de ces lois maladroites qui commettent l'homicide par imprudence, aucune de ces lois scélérates qui frappent à dessein la noblesse de l'esprit et le courage de la parole? Il me semble que depuis quelque temps, on arrête beaucoup de camarades pour avoir écrit ceci, pour avoir dit cela, pour avoir collé un tract. Sans doute, il y a des questions d'espèces, comme on dit au palais. Plusieurs de ces arrestations sont condamnées par la loi. Mais si la loi en autorise ou en exige quelqu'une, toute arrestation pour délit d'opinion condamne la loi. Mes paroles semblent hardies. Quelle tristesse qu'elles le puissent paraître. Victor Hugo écrivait « Toute l'éloquence humaine dans les assemblées de tous les peuples et de tous les temps peut se résumer en ceci, la querelle du droit contre la loi. Hein, » Pro iuris contra legem. Depuis que Jaurès a été assassiné, y a-t-il encore de l'éloquence dans les assemblées? Pousserai-je l'indulgence jusqu'à appeler éloquence les chicanes avocatières d'un point carré, les grâces vides d'un brillant? Je veux bien. Mais il n'y a plus dans nos assemblées d'éloquence humaine. Reprenons donc dans nos journaux la grande querelle du droit contre la loi. Reprenons aussi la querelle moins haute, mais parfois plus efficace, de la loi contre le magistrat. Puisque la loi est injuste, que chacune de ses applications soulève en nous, répande en nous, autour de nous, la noble clameur réprobative. Quand nous pouvons montrer, hélas nous n'aurons que trop souvent ce genre de triomphe, quand nous pouvons montrer le magistrat pire que la loi, que notre parole le soufflette sur les deux joues, mais que le verbe qui frappe au nom de la loi frappe moins fort que celui qui s'indigne et frappe au nom du droit. Ne le disons jamais avec indifférence, c'est un cas particulier, il s'agit d'un seul. Surtout n'ajoutez jamais, et il n'est pas sympathique. Quel cœur abominable aurions-nous si un être semblable à nous pouvait devenir une victime sans nous devenir sympathique. Un cas particulier, un individu, dire que ces mots peuvent refroidir quelques ailes. Y a-t-il donc autre chose que du particulier et de l'individuel? Le général et le collectif, quel intérêt offrirait-il s'il ne faisait du bien ou du mal à des individus? Abandonner l'individuel et le particulier, c'est tout abandonner. Si nous sommes prêts à protester et à agir devant chaque injustice, tout devient inutile, même la révolution. Elle ne ferait que changer le nom et la personne de nos tyrans, de ceux à qui notre négligence livre le détail, c'est-à-dire tout. Il y a plus d'un moyen de déposer ou de supprimer un tyran, la plupart de ces moyens nous livrent à un autre, mais il y a un moyen, un seul, de tuer à jamais le tyran, c'est de le tuer en nous. Ceux qui ne veulent plus de tyrans, qu'ils cessent d'avoir des âmes de laquais, des silences de valets, des consentements de soldats et d'esclaves. Alors sur cette charge héroïque, on peut s'arrêter, mais je voulais quand même terminer sur une note un tout petit peu plus légère. Vive les abeilles. Réponse à une enquête d'un magazine apicole. Vive les abeilles, celle de Montfavet s'entend. Je sais des ruches au jardin du Luxembourg et j'ai vu les chastes buveuses de rosée se désaltérer à la pissotière. Si j'étais fabuliste, quel enseignement demanderais-je aux abeilles du Luxembourg et à leur soif d'ilote? Abeilles du Luxembourg, votre soif, si j'étais fabuliste, vous inviterait-elle à fuir la ville salisseuse? Abeilles, je suis pacifiste et je n'aime guère votre aiguillon, vos colères, vos âpres justices. Laborieuse, vous tuez les frelons qui ne travaillent point. Si j'étais fabuliste et bolchevique, quelle leçon demanderais-je à votre aiguillon et à la mort des frelons? Je ne suis ni fabuliste ni bolchevique. Guerriers et bourreaux m'apparaissent des criminels. Même quand la mort du coupable est juste, le meurtre est un geste odieux. Abeille qui tuait, abeille qui au besoin cherchait la rosée à la pissotière. Valez-vous mieux que les hommes? Vive les abeilles quand même, et vive l'humanité! Merci pour lui.